Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose cette semaine de découvrir ou de redécouvrir une série d'émissions sur le philosophe Confucius. Aujourd'hui, troisième temps, qu'est-ce que le renne ou le gène ? De la fabrique au chemin, il n'y a qu'un pas que vous franchissez tous les jours.
Exactement, et c'est un pas qui nous conduit vers Rennes, mais qui n'est pas une ville en l'occurrence, mais plutôt un terme chinois.
Alors exactement, le renne, qu'est-ce que le renne ? Et là je me tourne d'emblée, merci Emmanuel, vous posez la première question à mon invité Alexis Lavis, on ne dit pas renne, n'est-ce pas ?
Non, il ne faut pas, c'est mal, et on dit gène.
Gène, Emmanuel, vous entendez ?
Voilà. Bah, gène, c'est
aussi notre ville d'ailleurs.
Exactement,
le
bonne émission.
Le prononce J en pinyin. Voilà.
Et qu'est-ce que ça veut dire le gène du coup ?
Ça veut dire plusieurs choses, parce que ça peut vouloir dire donc l'homme, le bipède, ça peut vouloir dire la qualité d'être humain de l'humanité, et ça peut vouloir dire aussi la compassion.
Les chemins de la philosophie, c'est parti. Les chemins de la philosophie vous accompagnent tous les jours de 10h à 10h53 en direct et toutes les nuits, quand vous voulez, en téléchargement. Chaque semaine, nous vous invitons à déambuler autour d'un thème ou d'un auteur à la croisée des disciplines, philosophie, littérature, cinéma, musique. Et chaque jour, nous donnons la parole aux amoureux du savoir, aux gourmands de la pensée, aux férus de transmission, la crème de la crème à votre service et au creux de votre oreille. Et cette dégustation se termine sur une note sucrée tous les jours à 10h50, heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie qui aujourd'hui vous incitera à lire « La vie aveugle » de Loïc Merle.
« Oui, Chen Kongqiu, bai jian jun fu ren. »«
Ni jiu shi zhu min de fu zi, Kongqiu ma ?»« Kong fu zi, qing zuo qi lai ba. » »«
Vous êtes donc le fameux maître Kongqiu, celui qu'on surnomme le sage ?»« Kongqiu. » Veuillez vous redresser.
Je vous remercie, madame.
La bienveillance est le noyau de la morale. Ça vous ressemble. On m'a dit que vous enseignez le livre des Odes.
C'est vrai.
Parmi les 300 poèmes du livre, la plupart ne parlent que de l'amour, est-ce vrai ?
C'est vrai. Tous ces poèmes ont toujours un thème en commun. Dans un pur sentiment d'amour, il n'y a pas de place pour la malveillance.
Nos ministres sont formels. Votre proposition de combiner civisme et pouvoir est vouée à l'échec. Croyez-vous que cela est possible d'y arriver ?
Un royaume gouverné avec civisme profite à la nation et bien sûr à ses citoyens. Pourquoi pensez-vous que c'est impossible ? Un pays dépourvu de civisme ne connaîtra que malheur et chaos.
L'avidité est un sentiment humain. L'homme aime l'odeur du sang. C'est pour ça que nous connaissons tant de guerres. Changer la nature de l'homme me paraît improbable. Pas à vous ?
Pourtant, c'est possible.
Voyons, maître. Vous parlez toujours de valeurs humaines. Elles vous tiennent donc tant à cœur ? Sont-elles si importantes ?
Celui qui suit la voie de la vertu ne devra jamais craindre la vie dans l'au-delà.
Bonjour Alexis Lavis.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur agrégé de philosophie, justement, spécialiste de philosophie comparée en Orient, Chine et Inde et Occident, plus particulièrement des courants bouddhistes, taoïstes et confucianistes, et on vous doit notamment les paroles de sages chinois aux éditions du Seuil, ainsi qu'un ouvrage intitulé « L'espace de la pensée chinoise, confucianisme, taoïsme et bouddhisme » aux éditions Oxus. Et on commence en images et en mouvement avec un extrait du film de Hu Mei, interprété par Chow Yun-fat, la star chinoise du cinéma chinois, donc, qui interprète ici Confucius, qui explique à Madame Wei, l'épouse donc, du souverain, en quoi, bien pour lui, le civisme et politique font bon ménage, et surtout, c'est elle qui le formule ainsi, que la bienveillance serait le noyau de la morale. On a ici l'explication dans une adaptation cinématographique, mais après tous les entretiens de Confucius ont fait objet de beaucoup d'interprétations, donc pourquoi pas celle-ci, l'exposition d'une forme de morale confucienne. On peut vraiment parler d'une morale confucienne, n'est-ce pas ?
Ah oui, peut-être même on pourrait ne parler de morale que de confucienne, parce que on pourrait dire l'horizon du confucianisme, c'est un conformisme intégral.
un conformisme.
C'est-à-dire se conformer aux formes culturelles, rituelles d'une civilisation donnée, dont votre Anne Cheng a parlé
lundi dernier,
c'est-à-dire la civilisation des Zhou, qui était une ancienne civilisation royale qui avait développé tout un code de vie, toute une éthique formelle, très hiérarchique. Et le confucianisme, c'est comment réhabiter à neuf, à chaque génération, un cadre. Comment se faire soi-même le corps d'une civilisation, comment être soi-même le corps d'une civilisation. Le corps d'un, voilà, de manière de penser, d'agir, de se tenir, de s'habiller, de parler à certaines personnes en fonction de leur situation sociale. Donc c'est codifié à l'extrême. Mmh. Et donc du coup, si on entend bien la morale comme elle l'est, c'est-à-dire la conformité aux bonnes mœurs, eh bien, il n'y a pas plus morale que la pensée confucienne.
Alors, c'est morale dans un certain sens du terme. Alors, ce n'est pas une morale selon le bien et le mal. C'est être moral signifie s'adapter aux coutumes en vigueur. Ce n'est pas agir selon le bien.
Non, parce qu'il n'y a pas à proprement parler de pensée universelle dans le confucianisme. On pourrait dire Confucius serait très étonné de nous entendre parler, nous, Français, sur lui. Je pense que l'idée, par exemple, que le Berry devienne confucéen, lui ferait perdre ses cheveux beaucoup plus tôt que prévu. C'est-à-dire, véritablement, ça s'adresse à un moment du temps chinois et à la volonté de restaurer un cadre civilisationnel qui, pour lui, lui semblait être le cadre civilisationnel dans lequel l'homme chinois pouvait s'épanouir. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous, parce qu'il y a une méditation sur les rites, sur la forme, sur la bonté. Quel est le rapport entre la bonté et la forme? Qu'est-ce que c'est qu'un chemin de perfectionnement de l'homme? Pour nous, c'est intéressant, mais c'est très contextualisé.
Il y a quand même l'interrogation qui porte sur la nature de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, non seulement dans la société, mais même en lui-même, avec ce terme de gène, donc qui s'écrit R-E-N, et vous nous avez, juste avant le début, avant le générique, vous avez expliqué à Emmanuel Laurentin la bonne prononciation donc de gène. On ne dit pas reine, mais gène. C'est un terme, là, qu'on pourrait appeler de morale au sens presque théorique du terme, dans la mesure où il implique l'homme toujours en lien avec quelqu'un d'autre.
C'est un terme assez polysémique. C'est vraiment, on pourrait dire, vous savez, il y a des mots civilisation, vous prenez logos en grec par exemple, à traduire, vous arrachez les cheveux parce que ça désigne un phénomène que les Grecs ont vu et qu'ils ont rassemblé sous un mot. Eh bien, gène, c'est un petit peu comme ça. Donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses. D'abord, ça veut dire l'homme au sens naturel du terme, qui est représenté par la bipédie dans le signe chinois. Et là, c'est intéressant parce que c'est la position verticale, c'est-à-dire la position axiale, se tenir entre deux plans. La terre qui nourrit, le ciel qui dirige. Donc on va dire même la position physique de l'homme l'inscrit dans un sens. Il doit être intermédiaire entre un plan supérieur et un plan inférieur. Autrement dit, il n'y a pas d'homme sans hiérarchie. L'homme s'inscrit toujours dans une hiérarchie. Ça, c'est aussi le gène. Savoir se tenir au sein d'une hiérarchie, c'est être humain. Oui, pour nous, c'est étrange, ça sonne très très étrange. Ensuite, vous avez gène, celui qu'on connaît le plus souvent, c'est-à-dire vous avez la clé de l'homme, donc le bipède à droite, et vous avez deux traits horizontaux à gauche, qui signifient deux. Et là, effectivement, vous avez, ça c'est la vertu d'humanité, ou comme le dit très très bien Han Cheng, le sens de l'humain, comme on a le sens de l'orientation, il faut l'entendre comme ça. Et là, effectivement, c'est cette aptitude à sentir là où c'est humain. Et là où c'est humain, bah, c'est deux, c'est-à-dire la relation sociale. L'être humain, c'est d'abord un être social, mais c'est aussi, encore une fois, les deux plans du ciel et de la terre, c'est-à-dire cette capacité à se situer dans une hiérarchie.
Alors si on essaie de le traduire en termes occidentaux, savoir essayer de situer l'homme entre le ciel et la terre, c'est un peu la phrase de Socrate, connais-toi toi-même, c'est savoir quelle est la place de l'homme dans l'univers.
Tout à fait.
Et ensuite, considérer que l'homme est d'emblée pris dans une interrelation, en fait c'est ça, hein, que l'homme est toujours deux, c'est, il y a une espèce presque de morale chrétienne ici, hein. Il faut toujours prendre en compte son prochain dans l'amour que l'on se porte.
Ah oui, mais il faut enlever Dieu, donc du coup il n'y a plus de morale chrétienne. L'être de l'être humain, voilà, on pourrait pas parler comme ça parce qu'il n'y a pas de définition de l'être humain, de la nature humaine chez Confucius. Vous voyez, faut faire attention à ça. À aucun moment Confucius dit l'être humain c'est ta 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 ta, une définition aristotélicienne. Ouais, il y a pas ça. Donc ça part dans tous les sens. C'est pas sa perspective. Mais effectivement, l'identité humaine n'est qu'une identité sociale. Autrement dit, Un être humain tout nu, ça n'existe pas. Un être humain, c'est un pardon, c'est un père, c'est un frère, c'est un supérieur, c'est un inférieur, c'est un chef, c'est un oui, c'est un c'est... Il n'y a pas un être humain comme ça. Un être humain, c'est une abstraction. Et c'est ça qu'on entend aussi fondamentalement dans ce gène. C'est pas une identité métaphysique. C'est la situation humaine toujours au sein d'un monde social. Autrement dit, d'un monde humain.
C'est une morale qui est extrêmement contextualisée, historiquement marquée, qui est très plus descriptive que normative, hein, c'est ce que vous dites. Et en même temps, dans les entretiens de Confucius, ainsi que dans les nombreuses interprétations que ses lecteurs ont pu en faire, ou ses disciples ont pu en faire, on trouve comme des phrases codifiées qui semblent dicter une certaine conduite à adopter. Hein. J'en cite une par exemple. « Tout homme en naissant à la rectitude du cœur, celui qui la perd ne perd pas en même temps la vie, jouit d'un bonheur qu'il n'a pas mérité. » En clair, l'homme, quand il naît, a le cœur bon, celui qui perd la bonté de ce cœur ne mérite même plus de vivre. Il vaut mieux vivre de manière vertueuse que de vivre de manière heureuse.
Ah oui, oui, ça c'est...
Une morale
ça,
extrêmement rigoureuse.
Et c'est là qu'on pourrait le dire maintenant, c'est une morale au fond foncièrement aristocratique. Je crois vraiment, c'est encore cette verticalité qui fait le cœur du monde chinois. Je crois que vos invités en ont parlé la dernière fois, ce qu'on appelle le junse, c'est-à-dire le gentilhomme, littéralement ça veut dire ça.
L'homme de bien, parfois en traduction.
Moi, je crois qu'il faut vraiment dire le gentilhomme. Le gentleman, ça d'accord. C'est vraiment ça. Ouais. Et même au sens aristocratique du terme, c'est-à-dire le noble. Junse, jun, ça veut dire, quand on fait l'étymologie, c'est un mot très très étrange, très intéressant, puisque le jun, c'est celui qui, par sa parole, peut ordonner. Et donc il a une qualité de parole, qui est une qualité de présence, qui fait ordre. Autrement dit, celui qui donne les ordres. Mais, et c'est ça, il faut être capable de parler comme ça. Et pour pouvoir faire ordre lorsqu'on parle, il faut soi-même avoir intégré tout le code social, et donc être le garant, on pourrait dire, de cet ordre. C'est ça, l'homme vertueux.
Bah, donc la vertu, c'est la connaissance des codes, des rites
sociaux. Oui, c'est une connaissance qui n'est pas une connaissance seulement littéraire, c'est une connaissance...
Empirique,
oui. Ah oui, c'est-à-dire que ça vous prend 50 ans. Dans un texte très célèbre de Confucius, il dit qu'il a commencé à pouvoir se détendre à l'âge de 40 ans. Et à 50 ans, il pouvait agir sans y penser, autrement dit. Sans y penser, ça veut dire que sa spontanéité était l'incarnation parfaite de la forme.
Il dit aussi, et c'est peut-être en ce sens, qu'à 40 ans, un homme qui aurait encore des défauts, eh bien c'est peine perdue pour lui, il ne pourra plus jamais les corriger.
Ah oui, c'est foutu. Alors, il le dit même...
Bah, à l'époque, 40 ans est quand même un peu plus âgé. Enfin, je pense qu'on mourrait
plus tôt. Il a vécu assez vieux, Confucius. Ça, il faut toujours se méfier
de... Non, plus de 70 ans, en tout cas, puisqu'il fait 70 ans l'âge ultime de la sagesse.
Donc, non, il y avait quand même des perspectives de vie pas si pourries que ça. Et effectivement, oui, c'est un jugement qui m'a toujours frappé parce que oui, on peut passer à côté de sa vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on médite jamais assez. C'est tout à fait possible de rater. Et ça crée des nuits blanches quand même, cette pensée-là.
Et donc rater sa vie, ça signifie quoi pour Confucius ?
Ça signifie ne pas s'être éduqué. C'est-à-dire être resté une forme de jachère. Et c'est très mignon quand on est petit, ça devient inquiétant quand on est adolescent, ça devient tragique lorsqu'on est adulte. Je pense que là, il y a quelque chose d'une forme de tragédie. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité chez l'être humain d'intégrer un monde et de s'y conformer. Voilà.
La question étant de savoir si nous sommes tous égaux face à cette possibilité d'atteindre la vertu. Un interprète de Confucius parmi d'autres, Mencius, vous nous direz qui c'est, Alexis Lavis, pense que bien justement, tous les hommes sont également hommes, mais bon, il y a certains hommes qui deviennent grands et d'autres qui deviennent vulgaires. Avant d'écouter le texte, peut-être présentez-nous qui est Mencius.
Alors, Mencius, donc on l'appelle aussi maître Meng, est on pourrait dire l'un des très grands disciples de Confucius qui arrive à la période d'après, la période des royaumes combattants, et qui lui va proposer une interprétation fondamentale de Confucius, qui sera opposée à un autre interprète, Sun Tzu, qui lui va proposer une autre interprétation. C'est les deux grandes voies interprétatives, celle de Mencius, celle de Sun Tzu, du confucianisme. Sachant que voilà, les entretiens de Confucius sont pas un livre à proprement parler. Ça saute du coq à l'âne tout le temps.
Comme un recueil d'aphorismes.
Voilà, c'est ça, c'est un recueil d'aphorismes, c'est un recueil de, et c'est très circonstancié. On veut toujours universaliser, mais ça, c'est pas possible. C'est des petites discussions, c'est des petites rencontres où on peut faire apparaître quelque chose. Chez Mencius et chez Sun Tzu, là, on commence à travailler, on pourrait dire, le fond conceptuel inapparent de ce qu'il y avait chez Confucius.
Alors écoutez le texte interprété par Jean-Louis Jacobin.
Tous les hommes sont également hommes. Comment se fait-il que les uns deviennent de grands hommes et les autres des hommes vulgaires? Ceux qui suivent la direction de la plus noble partie de leur être deviennent de grands hommes. Ceux qui suivent les penchants de la moins noble deviennent des hommes méprisables. Mais pourquoi les uns choisissent-ils de suivre la direction de la plus noble partie de leur être et les autres les penchants de la moins noble? Les oreilles et les yeux n'ont pas pour office de penser et sont trompés par les choses extérieures. Les choses extérieures sont en relation avec des choses dépourvues d'intelligence, à savoir avec nos sens, et ne font que les attirer. L'esprit a le devoir de penser. S'il réfléchit, il arrive à la connaissance de la vérité, sinon il n'y parvient pas. Tout ce qui est en nous nous a été donné par le ciel. Lorsqu'un homme suit fermement la direction de la plus noble partie de lui-même, la partie inférieure ne peut usurper ce pouvoir. Il devient un homme vraiment grand.
On retient deux choses de ce texte, entre autres, Alexis Lavis. L'idée que l'esprit a le devoir de penser. La pensée n'est pas un choix, mais un devoir. Donc la vertu se situe dans la réflexion elle-même. Reste à savoir comment on la définit. Et ensuite, le fait que les sens nous trompent. Et là, on a comme une anticipation du constat cartésien, on y reviendra, peut-être le début d'une forme d'humanisme au sein de la philosophie, qui n'est pas sans lien avec Confucius. Mais dire que les sens nous trompent, ça veut dire justement que l'on doit se centrer sur la pensée et que le fait de privilégier la pensée sur les sens est la voie à suivre pour atteindre la vertu.
Alors c'est un peu compliqué parce que je crois que la traduction pêche parfois. Parce que ce qu'on appelle pensée, ça se dit xin en chinois, et c'est le cœur. Donc c'est aussi le sentiment. C'est aussi l'appréciation sentimentale des choses. Donc c'est l'affection aussi. Et pour nous, ça serait qui séparons la passion de la réflexion. Ça a beaucoup moins de sens, mais passion et réflexion sont unis dans ce terme xin qu'on traduit par pensée. Le devoir de penser, c'est-à-dire c'est le devoir du cœur. C'est ce mot xin intervient très très fréquemment, notamment par exemple quand on parlait de la nature, mais la nature c'est pas la nature, c'est xing, c'est un autre terme chinois, et qui veut dire croître, germer, donc là on a bien le natura latin, naître, voilà, mais dans la direction du cœur. Et le cœur, donc, c'est quelque chose qui est une sorte de donnée immédiate, sentimentale aussi, qui nous porte, par exemple, à souffrir lorsqu'un individu souffre. Certaines dispositions natives, on pourrait dire, et qu'il faut, en un sens, d'une manière botanique presque, permettre de croître droit. Donc, chez Mincius, c'est la perspective du tuteur. Voilà. Donc, les rites, la morale, le penser. Penser, c'est mesurer. Vous voyez, à quelle référence, à quelle norme j'axe mes dispositions pour qu'elles croissent de façon droite. Oui. Donc ça, c'est ça l'horizon, on pourrait dire, de Mincius. Il y a des dispositions natives de l'homme qui, si elles ne sont pas mises sur une règle, vont pousser de travers. Et là, c'est une catastrophe.
Donc il y a quand même une possibilité d'intervenir sur cette donnée initiale qu'est le cœur humain.
Ah, c'est pas une possibilité, c'est un devoir. Si l'on n'intervient pas, c'est le petit bonheur, la chance.
Et donc cette distinction qu'il fait entre les grands hommes et les hommes vulgaires naît de l'intervention ou non sur l'homme, justement d'un tuteur qui va venir redresser l'homme, devient noble celui qui a été redressé.
Tout à fait.
Alors que le vulgaire est celui qui n'a pas été...
qui est tordu. Tordu.
Qui n'a pas été éduqué.
Tout à fait. Qui n'a pas poussé, même presque, on pourrait dire. Parce que vulgaire, c'est xiaozhen, donc c'est petit homme. Et là, on voit bien encore la hiérarchie. Petit homme, et au fond, on pourrait dire, vraiment, restons botanistes, petit homme, c'est l'homme qui ne pousse pas. Et qui est resté à un état de mauvaises herbes. Voilà.
Mais il y a quand même une distinction qui est faite avec les sens. C'est-à-dire que quand il dit que les oreilles et les yeux n'ont pas pour office de penser et sont trompés par les choses extérieures, il y a quand même cette volonté de dissocier ici ce que l'esprit qui est peut-être identique au cœur... mais de la réalité extérieure sensorielle, sensible.
Non, non, là, il faut pas être trop métaphysicien trop vite. C'est beaucoup plus. C'est pas exactement ça le point. Le point, c'est que dans l'horizon sensible, dans la pensée chinoise, il y a un problème. Il y a pas de médiation. Autrement dit, dans l'expérience sensible, on est collé à la réalité, on est confondu avec la réalité, et donc du coup, il n'y a plus d'apparition de normes. La norme, c'est la médiation. Le rite, c'est la médiation. La civilisation, c'est la médiation. Donc, l'expérience sensible comme telle, elle est confondante, au sens où elle est confuse. Mm-hmm. Et par exemple, Sun Tzu, donc l'autre grand interprète de Confucius, dit « le problème de l'homme, c'est qu'il est collé à ses désirs ». Et ça, c'est l'animalité, d'une certaine manière. Un homme apparaît lorsqu'il y a espacement entre le désir, l'expérience, on pourrait dire, et la satisfaction de cette expérience. Or, ce qui met de la médiation, ce qui met de l'espace, de la distinction, donc de la connaissance, c'est les formes rituelles, les formes morales, l'étude. Bref, cette espèce d'espace de gratuité qui fait qu'on ne peut pas tout de suite sauter sur la bouffe. Il faut d'abord dire merci, pardon, oui. Toute la médiation du temps. C'est pour ça, par exemple, que Confucius disait qu'un homme qui n'est pas patient à l'âge passé de 40 ans, c'est foutu pour lui. Parce que c'est ça, cette patience, c'est cette capacité à ne pas être immédiatement au monde.
Il insiste, vous parlez de patience, il insiste beaucoup sur la prudence également. Il dit en quoi consiste la vertu d'humanité ? Elle consiste à aimer les hommes. En quoi consiste la prudence ? Elle consiste à connaître les hommes.
Ah oui, là on a quelque chose comme la phronesis d'Aristote, c'est-à-dire qui a été un peu mal traduite par prudence.
La prudence, oui.
Oui, mais c'est-à-dire effectivement ce côté avisé. C'est ça, parce que la phronesis chez Aristote, c'est être avisé. Et c'est exactement ça chez Confucius aussi. C'est une vertu de l'homme, ça, qui se travaille avec le temps et qui fait qu'on est sans naïveté. Et ça se donne avec à la fois l'étude des textes. Là, dans l'extrait du film, on parlait du Livre des Autres, qui est un recueil de poèmes. Il y a aussi un grand recueil d'histoires. On se nourrit des expériences humaines passées pour justement ne pas être enferré dans sa propre immédiateté d'individu. Un être humain doit être gros, énorme, enceinte, on pourrait dire, de toutes les générations passées. Et ça, encore une fois, on voit pas d'immédiateté, pas de spontanéité. C'est absolument pas bon dans l'horizon confucéen. Il faut vraiment de la médiation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours être plus que soi.
Est-ce que vous diriez quand même que Confucius et ses disciples visent à essayer de connaître ce qu'est l'homme? On emploie souvent, les commentateurs de Confucius emploient souvent le terme d'humanisme pour le caractériser. Et si on entend par humanisme la réflexion qui consiste à considérer, enfin à s'intéresser à la nature de l'homme, essayer de la définir ou de la décrire, Confucius en ce sens serait fidèle à ce terme. Il me semble que vous prenez vos distances par rapport à cette appellation.
Ah oui, je pense qu'elle n'est pas du tout aidante. Peut-être juste un petit peu revenir. L'humanisme, au fond, c'est presque le cœur de la civilisation européenne. C'est une forme de projet. Alors on voit, c'est historiquement daté, à la Renaissance, c'est la volonté de retrouver un héritage. Donc là, ça pourrait être confucéen, retrouver l'héritage de l'Antiquité. Sauf que ça se fait en Europe dans une perspective toute différente, qui est celle au fond de l'autodétermination de l'homme par l'homme. Et ça va très loin. Ça peut être magnifique, Montaigne, ça peut être les Lumières aussi, les Lumières sont un humanisme. Mais ça peut être aussi le nazisme. Le nazisme, c'est la volonté biologique d'autodétermination de l'homme par l'homme. Ça peut être les formes totalitaires aussi. Je vous rappelle que Mandelstam, donc le poète Ossip Mandelstam, au moment où il allait au goulag, avait dit « Je suis entre les mains des humanistes ». Il y avait évidemment une ironie en plus mordante pour le coup, mais il y a bien ce projet d'autodétermination.
Mais aussi d'autodestruction dans ce cas.
Ben oui,
c'est le moment où il y a une distinction qui est faite au sein des hommes. C'est
on ne peut pas se choisir soi, on ne peut pas présider à sa propre naissance. On pourrait dire le fantasme égologique par définition, ça serait présider à sa naissance et assister à son propre enterrement. Et l'humanisme européen, même dans sa perspective nihiliste, il est marqué par ce projet-là, qui peut avoir sa beauté, mais qui peut avoir aussi son effroi. Autrement dit, c'est l'isolement de l'homme, sa coupure avec la nature, sa coupure avec Dieu, sa coupure même avec le monde traditionnel, parce que l'humanisme de la Renaissance, c'est la fin du monde traditionnel médiéval. Or, la pensée confucienne est une pensée de l'ordre, c'est-à-dire l'homme est inscrit dans un ordre cosmique, mais aussi dans un ordre social qui préexiste. C'est pas du tout un individualisme, il n'y a aucune conséquence individualiste du confucianisme, et c'est situé historiquement dans une civilisation donnée, au sens que c'est pas un universalisme non plus. Donc il n'y a pas, pour revenir au début de votre question, il n'y a pas à proprement parler de définition métaphysique de l'homme chez Confucius. Vous ne trouverez jamais dans les entretiens, l'homme c'est ça. D'ailleurs, si à un moment donné, je crois que c'est au livre 7, donc des entretiens, Yan Hui, le disciple chéri de Confucius, lui demande, cher maître, qu'est-ce que l'humanité de l'homme? Qu'est-ce que le gène du gène? Et la réponse de Confucius est confondante pour nous. Ce n'est pas du tout une définition aristotélicienne. Il dit, c'est vaincre son moi pour se replacer dans le sens du rite. On pourrait dire, il n'y a pas plus anti-humaniste que ça comme définition. Vaincre son moi pour se replacer dans le sens, on pourrait dire, de l'ordre. Et donc, il n'y a pas de... Et ça, c'est la seule définition un peu formelle. Et vous voyez, ça ne nous satisfait pas, nous. Ça ne définit pas l'homme, au sens, ça ne définit pas une espèce, un genre, tout ça.
Nous avons l'inconstance, l'irrésolution, l'incertitude, le chagrin, la superstition, l'inquiétude au sujet des choses à venir, même après notre vie, l'ambition, la cupidité, la jalousie, la haine, les désirs excessifs, insensés et indomptables, la guerre, le mensonge, la déloyauté, le dénigrement et la curiosité. Assurément, nous avons extraordinairement surpayé cette belle raison dont nous nous faisons gloire et cette capacité de juger et de connaître si nous l'avons achetée au prix de ce nombre infini de passions auxquelles nous sommes sans cesse en but. À moins qu'il ne nous plaise de faire valoir aussi, comme Socrate le fait bien, cette notable prérogative que nous avons sur les autres animaux. Que tandis que nature leur a prescrit certaines saisons et certaines limites pour leur volupté amoureuse, elle nous a sur ce point lâché la bride à toute heure et en toute occasion. De quel profit pouvons-nous penser que la capacité de comprendre tant de choses a été pour Varron et pour Aristote? Les a-t-elle exemptés des difficultés humaines? Ont-ils été libérés des maux qui font souffrir un portefaix? Ont-ils tiré de la logique quelques soulagements à la goutte? Parce qu'ils ont su que cette humeur se loge dans les articulations, l'ont-ils moins ressentie? Se sont-ils accommodés de la mort parce qu'ils savaient que certaines nations s'en réjouissaient et du cocuage parce qu'ils n'ignoraient pas que les femmes étaient mises en commun dans quelques pays? Au contraire. Et bien qu'ils aient tenu le premier rang pour le savoir, l'un chez les Romains et l'autre chez les Grecs, et à l'époque où la science était le plus florissante, nous n'avons pas appris qu'ils aient eu pour autant quelque particulière supériorité dans leur vie. Vous écoutez List, Montaigne, Confucius et les chemins de la philosophie sur France Culture à 10h28 pour le troisième temps de cette série d'émissions consacrée à Confucius en compagnie aujourd'hui du philosophe Alexis Lavis, à qui l'on doit notamment un choix de texte Confucius et le confucianisme qu'on trouve chez Pocket, ainsi que d'autres ouvrages consacrés au confucianisme, pas seulement aussi au taoïsme et au bouddhisme. Alexis Lavis, je viens de lire un extrait de l'apologie de Raymond Sebond de Montaigne, qui présente, de manière anachronique évidemment, une double objection à Confucius et à ses disciples. D'abord, Montaigne lui-même montre que la raison ne conduit pas ni au bonheur, ni à la supériorité humaine, et que bien souvent, au contraire, ce qu'on appelle la sagesse, conduit à la folie, et que vous en appelez à une forme de réflexion, de devoir de penser, n'est pas du tout une manière de se perfectionner, mais au contraire, sans doute, de se perdre en tant qu'humain. Et il me semble que là, lorsque Confucius parle de ce devoir de penser, ce devoir de se distinguer de l'animalité, il emprunte la voie que Montaigne sans doute dénonce, non?
Et je ne crois pas.
Sauver Confucius.
Oh oui, mais surtout la perspective de Montaigne là est très précise, donc et elle regarde beaucoup Montaigne dans son rapport à la philosophie, dont il veut faire plus qu'elle n'est. Et ça le regarde lui. Il ne faudrait pas croire que le confucianisme soit une philosophie. C'est peut-être ça le malentendu. Déjà parler de philosophie chinoise, c'est très 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 douteux et discutable. Pourquoi ? Parce que chez nous, depuis Parménide, être et penser, vous savez, le même. C'est-à-dire, il y a l'être véritable se donne par la pensée. Il y a ce primat de la pensée sur l'être qui n'a jamais existé en Chine. Les Confuciens ne sont pas du tout des penseurs. La preuve, c'est que le mot disciple de Confucius, confucéen, tel que c'était employé peut-être 30 ans après la mort de Confucius, servait à désigner des gens qui faisaient des rites mortuaires, qui étaient particulièrement performants dans, pour les bar mitzvahs, si vous voulez. Et donc, ils n'étaient pas du tout considérés comme scolastes ou idéologues, pas du tout. Confucius n'a jamais dit que le devoir de penser, ça veut dire se garder une certaine mesure dans les choses. Ordonner son être à une règle. C'est penser, en chinois, c'est mesurer. C'est-à-dire, vraiment, l'école normale. Vraiment, se normer. Donc, c'est pas du tout ce que Montaigne entend, là, dans l'horizon de la raison et tout ça.
Il s'adresse quand même à Aristote qui propose la même définition de la raison que celle que vous proposez chez Confucius. Cette médiété, le mesurer.
Ah, mais quelle est la mesure?
C'est ça que
mais quelle est la mesure chez Aristote? Quelle est la mesure chez Aristote? C'est ce qui est déterminé dans l'organon. C'est-à-dire, les règles logiques, le principe de non-contradiction, tout ça.
Pas dans le domaine éthique, justement, dans l'éthique anicomaque, justement. La mesure, la norme et ce juste milieu, cette médiété entre deux extrêmes.
Oui, mais c'est chez
cette mesure,
chez Aristote, la mesure, c'est ce qui est relatif au bien humain, c'est-à-dire, étant donné la définition de l'homme, ce qui convient, agathon en grec, ce qui convient véritablement à la nature humaine. Vu qu'il n'y a pas ça chez Confucius. Non, non, la norme chez Confucius, c'est les règles édictées par les Zhou. Donc, c'est une norme prescrite, c'est-à-dire comment on boit, comment on se tient, comment on s'habille. C'est ça, penser.
Une sorte d'étiquette, quoi.
Oui, c'est une étiquette, exactement. Comment penser, ça signifie comment on se tient. Et comment on se tient debout, par exemple. Comment on s'assoit. Est-ce que quand on s'assoit, on regarde la personne? Est-ce qu'il faut la regarder dans les yeux? Est-ce qu'il faut mettre ses mains l'une au-dessus de l'autre? Ou alors à côté? C'est ça, penser.
Mais alors, la deuxième objection que Montaigne pourrait adresser au propos de Confucius, ce serait celui du résultat obtenu. Ainsi, lorsqu'il dit qu'Aristote et Varron n'ont pas moins souffert d'avoir atteint quelque forme de connaissance, on pourrait dire à Confucius que connaître bien l'étiquette et vivre selon les rites ne conduit pas à une forme de supériorité d'existence, puisque le terme est employé par Montaigne. Et en fait, mais Confucius, vous l'avez dit tout à l'heure, sans doute répondrait oui, mais peu importe, le but n'est pas du tout d'être heureux, mais le but est de vivre selon l'étiquette, justement.
Le but est de vivre selon un cadre dans lequel l'humanité chinoise s'est reconnue à un moment donné. Voilà. Et c'est ça, être heureux, d'une certaine manière. Parce que heureux, ça veut, vous savez, ça, c'est encore un terme fourre-tout, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais fou en gêne, ça, en chinois, ça signifie être prospère, prospérer, vraiment au sens le plus matériel du terme. Et c'est ça l'horizon. C'est-à-dire, être heureux, ça veut dire avoir de l'argent, avoir une bonne famille, bien manger tous les jours. Et là, on voit bien pour nous, effectivement, qu'on pourrait être stoïcien. Là. Être vertueux, c'est aussi être heureux. Mais ça ne veut pas dire qu'on mange bien, mais au moins, on est digne, on se tient. Mm-hmm. Et ça, c'est une forme de bonheur, on peut le reconnaître aussi. Donc, vous voyez, il faut remettre un peu les choses à leur place. Quoi.
Mais justement, donc pour Confucius, c'est important également.
Oui, bien sûr, mais d'un point de vue de la prudence, cette fois. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait vraiment malheureux, par exemple, son disciple Yan Hui, était incroyablement pauvre. Je crois que même, il est peut-être mort de faim. Oui, mort de faim, quand même. Et d'une certaine manière, Confucius lui reprochait un peu. Il dit, si t'es trop malheureux, comment veux-tu te tenir? Mais le bonheur au sens de prospérité n'est jamais une fin. C'est un auxiliaire qui permet à l'homme de se tenir comme un homme. Et je pense vraiment le maître mot du confucianisme, de la morale confucienne, c'est la tenue. Comment on se tient? Et là, il faut donner à ce verbe tenir toute son ampleur.
Qui est donc?
Qui est se tenir physiquement, déjà. Vraiment, comment on le plus concrètement possible, comment on se tient moralement, comment on se tient par rapport à quelqu'un, mais vraiment tout, c'est-à-dire que tout, rien n'est improvisé. Tout doit être réglé. Dormir, comment on dort, comment on pose la tête, oui, donc c'est très flippant, on pourrait dire, pour nous. Mm-hmm. On n'est pas du tout dans un monde traditionnel, mais l'horizon du confucianisme, et pourquoi ça demande une éducation si longue, c'est qu'à terme, on intègre totalement ça, et on se tient parfaitement sans y penser. Mais ça demande effectivement une acclimatation, une éducation totale. Des gestes, de la pensée, du goût, même la manière de manger, la manière d'écouter la musique, tout ça doit être réglé.
Mais cette règle est à suivre au nom d'une forme d'obéissance à une règle sans qu'on en questionne le fondement, ou est-ce que c'est parce que cette règle est justement culturellement et historiquement située, que c'est une règle chinoise et que c'est cela qu'il faut privilégier?
Voilà.
C'est la deuxième.
Oui, tout à fait, c'est la deuxième. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une dynastie que Confucius estime bonne. Il n'est pas le seul, puisqu'elle a régné. C'est la dernière en date, les Zhou, dynastie royale. Ils ont fait des codes, ils avaient un projet civilisationnel, ils l'ont formalisé, ils ont proposé une manière d'exister, et c'est comme ça qu'il faut vivre. Donc c'est la limite pour nous, voilà. On pourrait dire, un Français ne peut pas être confucianiste. Il peut s'intéresser au confucianisme, s'en inspirer, prendre certaines réflexions, mais on ne peut pas être confucéen si on n'est pas chinois, d'une certaine manière.
Cao Tse dit: la nature est comme une eau qui tourbillonne. Qu'on lui ouvre la voie vers l'Orient, elle coulera vers l'Orient. Qu'on lui ouvre la voie vers l'Occident, elle coulera vers l'Occident. La nature humaine ne discerne pas le bien du mal, de même que l'eau ne discerne pas l'Orient de l'Occident. Mencius dit: il est vrai que l'eau ne fait nulle différence entre l'Orient et l'Occident, mais n'en fait-elle pas entre le haut et le bas ? La nature de l'homme tend au bien comme l'eau tend à couler vers le bas. Tout homme est bon, comme l'eau tend toujours à descendre. Cependant, si en frappant l'eau vous la faites jaillir, elle pourra dépasser la hauteur de votre front. Si vous l'arrêtez dans son cours et la refoulez, vous pouvez la faire demeurer sur une montagne. En cela, obéira-t-elle à sa tendance naturelle ? Elle obéira à la force. Lorsque l'homme est déterminé à faire le mal, c'est sa nature qui est violentée.
Pour Mencius, il y a quand même une nature humaine qu'on peut définir, Alexis Lavis. Celui-ci pense que l'homme est naturellement bon, que s'il commet le mal, c'est, dit-il, aussi peu naturel qu'une eau qui jaillirait donc de manière verticale à l'aide de la force, et donc le mal serait, à proprement parler, contre nature.
Oui, tout à fait. Et c'est là qu'il faut distinguer justement Confucius des entretiens, même ou du livre des rites, où il n'y a pas de définition à proprement parler de la nature humaine, des entreprises plus tardives, donc celle de Mencius, celle de Sun Tzu aussi. Et effectivement, Mencius essaie de fonder, on pourrait dire en nature, ce gène. En quoi ça consiste ? Pourquoi ? Parce que justement, dans l'époque de Mencius, il ne s'agit plus trop d'éduquer les gens, il s'agit plutôt de convaincre. C'est-à-dire que beaucoup, les taoïstes sont très forts, les légistes sont très forts, plein de courants concurrents au confucianisme apparaissent dans cette époque tumultueuse, on pourrait dire, des royaumes combattants. Et il s'agit de convaincre les princes de s'adonner au confucianisme. Et donc il faut un appareil de justification très fort, plus fort en tout cas. Mais par exemple, j'ai retrouvé... Alors effectivement, il essaie de fonder en nature la nature de l'homme, on pourrait dire. Mais bon, la définition qu'il donne, je vous l'ai trouvée, elle est en Mencius 4 à 1, et il dit: la noblesse de l'être humain réside dans son humanité. Elle est un don du ciel et la demeure paisible de l'homme. La compassion est le principe de l'humanité. Oui, on va pas très très loin quand même.
Ah bah quand même. Et d'ailleurs, on a le don du ciel, ce qui, vous aviez évacué la dimension religieuse. Là, c'est le ciel. Il n'y a aucun dieu, mais il y a la notion de don, comme si l'homme était donné par un élément extérieur à lui.
Et là, effectivement, c'est intéressant parce qu'on a une double fondation. On a une fondation interne, il y a une disposition native du cœur à souffrir lorsque l'on voit souffrir les gens. Et ça, c'est marrant parce que ça se dit « jeune », troisième ton, donc « jeune » qui descend.
Parce que le même mot, donc prononcé selon trois intonations différentes et à trois significations
différentes. Ça ne veut pas dire la même chose, voilà. Donc « jeune », comme s'il y avait une sorte de point d'interrogation. Ça, c'est la bienveillance, le sens de l'humain, l'humanité de l'homme. Mais « jeune », qui descend, ça veut dire la compassion. Et c'est intéressant comme signe parce que vous avez un couteau au-dessus et le cœur en dessous. Donc, vous voyez, une lame plantée dans le cœur. Donc la capacité d'être atteint, d'être affecté. C'est très sentimental, vous voyez, la raison, là, est un peu loin. Et ça, c'est la disposition native de l'homme. L'homme, il est affecté par l'état des autres hommes. Et Confucius en parlait, si vous voyez un enfant se noyer, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous vous portez naturellement. Et effectivement, même les morales, vous pensez à Hutchinson, par exemple, les morales du sentiment chez les empiristes.
Ou la pitié rousseauiste.
Ou la pitié rousseauiste. Il y a effectivement une sorte de vertu, c'est pas une vertu, mais il y a une sorte de disposition sociale de l'homme.
D'empathie,
oui, mais faut voir que c'est d'abord social, c'est-à-dire à créer un lien avec un autre homme, à protéger un autre homme. Et donc ça c'est la nature de l'homme. C'est-à-dire qu'effectivement, il dit bien, il y a une direction comme l'eau va du haut vers le bas. Il y a une direction. Donc il y a du sens. Et ça va être fondé aussi par le ciel. Alors le ciel, ça veut dire simplement l'ordre du monde. Hein. C'est pas Dieu. Hein. Ça veut dire le système du monde. Le système des lois naturelles. Et qui fait que lorsque un homme va dans le sens de son humanité, la cultive, en prend soin, eh bien, les choses se passent bien. On va dire, le ciel répond. Oui. Et c'est comme ça qu'il va fonder la pertinence du confucianisme dans le domaine politique. Je vous rappelle l'extrait de Confucius.
Qui a ouvert l'émission. Hein.
Voilà, qu'on a écouté au début. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, si, il y a une pertinence à un gouvernement bienveillant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un gouvernement est réellement bienveillant, la population croît, les richesses, enfin, les gens prospèrent, tout va mieux. Et donc, du coup, le ciel répond favorablement.
Mais si l'homme est naturellement bon, comment Mincius explique-t-il un acte mauvais, l'existence du mal ?
Comme détournement de cette nature-là. C'est-à-dire, et là, vous voyez, ça n'est pas un naturaliste pur. C'est-à-dire qu'il y a éducation. C'est une éducation au sens où il y a des dispositions humaines, mais ces dispositions humaines seules ne suffisent pas. Et là, je vous ai retrouvé un autre extrait encore de Mincius qui est très explicite. Il dit « Les saints du temps ancien, après avoir épuisé la force de leurs yeux, y avaient suppléé par l'équerre et le compas, le niveau et le cordeau. » Et il continue comme ça. Et c'est cette idée-là qu'à l'état naturel, ouais, nos capacités sont très très limitées. Il faut les soutenir. L'éducation, les rites, tout le monde humain, toute la civilisation humaine est une sorte de tuteur de la nature humaine. Voilà. Comme l'équerre, on pourrait dire, ou le niveau, ou le compas, suppléé à nos capacités qui sont limitées.
On retrouve beaucoup le terme de perfection, d'homme parfait dans les entretiens de Confucius. Si ce terme-là ne s'applique pas à la nature humaine, puisqu'elle n'est pas décrite, elle n'est pas définie par Confucius, à quoi se réfère-t-il ce terme de perfection ? Un homme parfait, c'est lui qui se dissout dans la société, tellement il en a épousé des rites ?
Tout à fait, il y aurait tout à fait ça, effectivement. Un homme parfait serait un homme parfaitement acclimaté à son monde. Et il faut entendre, vous savez qu'il y a deux ententes de la perfection. Il y a une perfection idéaliste, qui est atteindre par tous les moyens possibles le but qu'on s'est fixé. Et là, justement, on ne l'atteint jamais, cette perfection-là, puisque l'idéalité n'est pas la même chose que la réalité. Mais il y a la perfection toute bête, qui est la perfection, par exemple, de l'artisan qui fait son bol. Comment on reconnaît qu'un bol est parfait ? Ben, c'est quand il est fini, tout simplement.
Achevé, parfait veut dire achevé.
Voilà, au sens vraiment là d'Aristote, c'est-à-dire ça a atteint son terme. Et il faut vraiment voir l'artisan à l'œuvre. Et je pense que la perfection confucienne est une perfection d'artisan. C'est-à-dire qu'on se travaille soi-même, on se travaille. Tout comme pour le potier, il faut que la matière atteigne sa forme, c'est-à-dire ressemble vraiment à un pot et soit utilisable comme un pot, pour un pot. Eh bien, l'être humain, d'une certaine manière confucéen, c'est un homme qui est à lui-même sa propre matière, il est la propre artisan et il doit se travailler pour correspondre, on pourrait dire, au monde dans lequel il est et à la place qui est la sienne.
Encore une citation des entretiens qui s'adresse aux partisans de ce qu'on appelle aujourd'hui l'antispécisme. Il dit « Nous ne pouvons pas faire société avec les animaux. Si je fuis la société des hommes, avec qui ferais-je société ?» Il y a une distinction très claire ici entre l'humanité et l'animalité.
Mmh. Ah oui, je pense qu'effectivement, dans l'horizon confucéen, l'animalité est un à côté. Le monde humain... est un monde proprement parlé. Et là, vous avez le deuxième grand confucien qui est Sun Tzu, qui lui dit il n'y a pas de nature du tout humaine. Ça, c'est une blague. Il dénonce même cette idée qu'il y aurait des élans du cœur, cette pitié rousseauiste, il dit mais ça fonde rien. L'homme est peut-être parfois sympathique, mais parfois il se conduit comme une ordure. Et laissé à l'état naturel, l'homme est un animal, pour le coup. Et ça n'est que parce que il entre dans un monde rituel, dans un monde formel, dans un monde de médiation, dans un monde culturel, que l'homme apparaît. Donc le monde animal est le monde naturel. Le monde humain est un monde, selon Sun Tzu, de l'artifice. Et c'est là qu'est le cœur de l'homme.
C'est l'inverse de la perspective rousseauiste, pour le coup, qui pense que la civilisation vient dénaturer l'homme naturellement bon.
Et d'une certaine manière, au fond, Sun Tzu le dirait tout à fait, mais vous avez tout à fait raison, mais il faut absolument dénaturer l'homme, parce que l'homme n'a pas de nature. C'est-à-dire qu'à l'état de nature, il n'y a pas d'homme. Et ça, c'est une pensée, vous voyez, très très moderne, on pourrait dire, de Sun Tzu, par rapport à Mincius, qui veut fonder en nature. On pourrait dire que Sunce assume complètement le côté artificiel culturel de l'homme. Ouais. C'est une donnée, l'homme est une donnée culturelle. Enfin, donc c'est même pas une donnée, c'est un acquis culturel. Ça apparaît, l'homme apparaît quand deux individus se disent bonjour.
Mais du coup, est-ce qu'on peut pas avoir dans le confucianisme, est-ce qu'il y aurait pas une vision un peu réductrice sans doute du confucianisme qui en ferait simplement l'alibi d'un pouvoir en place, d'une culture historiquement située qui voudrait se perpétuer, donc tiendrait comme norme ce qui la constitue elle-même?
Oui, on peut tout instrumentaliser, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ça a été instrumentalisé à loisir. Mais c'est très inconfortable pour les dirigeants, le confucianisme, parce que il n'y a pas plus tenu par la forme que le dirigeant. Il n'y a pas plus aliéné à la forme que le dirigeant. On pourrait dire le peuple, dans l'horizon confucéen, est beaucoup plus libre que
le... On le disait hier, le souverain doit se soumettre aux rites.
Les
rites
sont supérieurs aux autres. Ouais. Encore plus que les autres.
Encore plus que le peuple.
Il est écrasé, on pourrait dire, il n'a plus aucune personnalité. Il est le corps même. C'est-à-dire les deux corps du roi. Vous voyez, il n'y a plus de deux corps. Il n'y a qu'un seul corps. Le souverain, c'est le corps du monde. Et alors, il n'a aucune volonté particulière, aucune individualité, aucun goût personnel. Il n'y a pas, à mon avis, beaucoup de dirigeants qui seraient capables d'une telle assaise. Et le peuple, par contre, si le gouvernant est comme ça, est tout à fait libre, après, justement, de prospérer. Et on pourrait dire la vie populaire confucienne est beaucoup plus joyeuse que la vie gouvernante. Oui.
Un grand merci à vous, Alexis Lavis, d'être venu nous parler de la morale confucéenne aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
À ne pas confondre donc avec l'humanisme, on l'aura bien compris à l'issue de cette émission. Pour ceux pour qui c'est pas encore clair, on vous propose de réécouter l'émission, c'est facile de la télécharger. Vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la philosophie, nouvellement baptisé Chemin de la philosophie, non et non plus Nouveau Chemin de la connaissance, mais pour les téléchargements, ça fonctionne exactement de la même façon. Pas besoin de vous abonner à un nouveau podcast. Alexis Lavis, de vous, on peut lire L'espace de la pensée chinoise, confucianisme, taoïsme, bouddhisme aux éditions Oxus, Paroles de sages chinois au Seuil, d'autres livres sur Confucius et le confucianisme, un recueil de textes qu'on trouve chez Pocket, et puis Chance, vous revenez demain nous parler cette fois-ci des rapports entre confucianisme et taoïsme.
Tout à fait, l'aventure continue.
Très bien, rendez-vous demain à 10h donc sur France Culture, Les Chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle et bonjour à toutes et à tous.
Quelle actualité en lien avec la philo a retenu votre attention aujourd'hui?
Eh bien, il y a quelques jours, on fêtait les 500 ans de la Réforme. C'est donc l'occasion de se pencher sur Bach, qui deux siècles après Luther et influencé par ce dernier, a donné toute sa forme musicale à cette pensée. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de nous demander avec Bach, après Bukowski et l'écriture et Virginia Woolf et la lecture il y a quelques semaines, comment se forme donc une telle musique? Qu'est-ce que composer?
Oh,
Dans son essai « Bach ou le meilleur des mondes », tout juste paru aux éditions Le Passeur, André Tuboeuf veut, comme l'indique le titre, nous faire entrer dans le monde de Bach. Car meilleur ou pas, proche de Leibniz ou pas, c'est en tout cas bien un monde qu'il a construit, tout influencé par la réforme. C'est bien un monde qu'il a composé et qu'il s'agit de comprendre. Et là est bien la question « comment ?» de ses passions, dont la passion selon saint Matthieu, que l'on vient d'entendre, que l'on entend encore, jusqu'à ses messes, comment a-t-il composé ? C'est-à-dire, si on revient au sens premier de composer, comment a-t-il mis ensemble, embrassé, rassemblé des éléments épars en un monde qui se tient et se maintient ? Un ensemble plein, ordonné, harmonieux et qui sonne juste. Et comment, nous auditeurs, initiés ou novices, peut-on faire partie de ce monde sans en troubler l'harmonie, sans être non plus impressionné par celui-ci ? L'un des interprètes les plus connus de Bach, Glenn Gould, insistait sur l'immédiateté. Il ne voulait pas d'intermédiaire dans la musique, mais de l'immédiateté, un contact direct, du toucher donc, et du tact sur le piano, d'où cette toccata de Bach qu'il interprète. Et c'est là un des éléments de la composition, mettre ensemble, en un ensemble, des éléments épars et même contraires. Ce n'est pas ajouter des éléments opposés et les faire tenir ensemble, tant bien que mal, mais c'est les faire tenir ensemble, c'est-à-dire sans intermédiaire précisément. De là, avec Bach, une composition des contraires. De l'immobilité en acte, en mouvement, des variations qui forment un état, une stabilité et des inventions qui ne sont pas des nouveautés mais des renouvellements de l'ancien, de ce qui était déjà là. Et surtout, d'où l'insistance de Gould sur l'immédiateté, de là, une musique qui ne se joue pas comme l'application d'une idée abstraite mais dont l'idée se forme en même temps que le jeu. Récapitule, composer, c'est donc rassembler en un monde des éléments divers et épars, c'est les faire tenir ensemble, immédiatement, sans intermédiaire. Mais n'est-ce pas aussi les faire entendre ? Avec cette cantate qu'on a eu du mal à couper, entendre devient ainsi comprendre, saisir avec, embrasser le tout de l'œuvre, être pris dans l'élan à son tour. Mais comment se fait-elle entendre ? La composition doit aussi se tenir dans la forme. Celle de Bach s'adapte, comme le rappelle André Tuboeuf, elle se fait entendre partout, mais bien entendre, avec beauté, et en cela, Bach évoque sûrement le meilleur des mondes et Leibniz, mais il évoque surtout l'ambition que peut avoir toute pensée grâce à la musique, faire monde, le rendre accessible et même peut-être beau.
Merci Géraldine. Et oui, quand on diffuse de la musique ici en studio, bah nous on chante, on fredonne, en tout cas on se réjouit. Merci pour d'avoir parlé de ce livre sur Bach donc.
Sur Bach, Bach ou le meilleur des mondes, c'est d'André Tuboeuf, c'est aux éditions Le Passeur et il y a tout un ensemble de concerts qui sont donnés à l'occasion du coup des 500 ans de la réforme. On mettra toutes les dates sur le site du Journal de la Philo.
C'est noté, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Cette semaine, nous vous offrons quelques minutes de poésie avec Arthur Rimbaud, des textes lus par le poète Jacques Gamblin. Aujourd'hui,
Nuit en enfer.
Tais-toi, mais tais-toi. C'est la honte, le reproche ici. Satan qui dit que le feu est ignoble, que ma colère est affreusement sotte. Assez. Des erreurs qu'on me souffle, magie, parfum, faux, musique puérile, et dire que je tiens la vérité, que je vois la justice, j'ai un jugement sain et arrêté, je suis prêt pour la perfection. Orgueil. La peau de ma tête se dessèche. Pitié, Seigneur. J'ai peur. J'ai soif. Si soif. Ah, l'enfance. L'herbe, la pluie, le lac sur les pierres. Le clair de lune quand le clocher sonnait 12, le diable est au clocher à cette heure. Marie, Sainte Vierge, horreur de ma bêtise. Là-bas, ne sont-ce pas des âmes honnêtes qui me veulent du bien? Venez, j'ai un oreiller sur la bouche, elles ne m'entendent pas, ce sont des fantômes. Puis jamais personne ne pense à autrui. Qu'on n'approche pas, je sens le roussi, c'est certain. Les hallucinations sont innombrables. C'est bien ce que j'ai toujours eu, plus de foi en l'histoire, l'oubli des principes. Je m'en tairais. Poètes et visionnaires seraient jaloux. Je suis mille fois le plus riche. Soyons avares comme la mer. Ah ça, l'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure. Je ne suis plus au monde. La théologie est sérieuse. L'enfer est certainement en bas. Et le ciel, en haut. Extase. Cauchemar. Sommeil dans un nid de flammes. Je vais éveiller tous les mystères, mystères religieux ou naturels, mort, naissance, avenir, passé, cosmogonie, néant. Je suis maître en fantasmagorie. Écoutez, j'ai tous les talents. Il n'y a personne ici et il y a quelqu'un. Je ne voudrais pas répandre mon trésor. Veut-on des chants nègres, des danses de houris? Veut-on que je disparaisse, que je plonge à la recherche de l'anneau? Veut-on... Je ferai de l'or, des remèdes.
C'était « Nuit en enfer » d'Arthur Rimbaud, lu par Jacques Gamblin. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui a préparé cette émission, ainsi que toutes les autres, Marianne Chassor, David Pargamin, Maude Markiewicz, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard et Nicolas Berger à la réalisation. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Confucius. D'ici là, pour réécouter l'émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, ainsi que toutes celles des jours précédents et des semaines et des mois, voire des années précédentes. Vous pouvez aussi télécharger, podcaster ces émissions afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.